France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Alexandre Benalla va se réveiller en prison ce matin. L'ancien conseiller de l'Élysée a été placé en détention provisoire, tout comme Vincent Crase. Ils n'ont pas respecté leur contrôle judiciaire et se sont parlé après leur mise en examen, selon des enregistrements dévoilés ces dernières semaines par Mediapart. Dans la matinée tout à l'heure, par ailleurs, les sénateurs rendront public leur rapport sur cette affaire dite Benalla, avec une synthèse des auditions publiques, la liste des dysfonctionnements en matière de sécurité à l'Élysée et puis leurs préconisations pour que tout cela ne se reproduise pas. Des milliers de Français se sont rassemblés hier contre l'antisémitisme. Ils étaient 20 000 à Paris selon les organisateurs, 1 500 à Marseille par exemple, 1 000 à Belfort, Rouen ou encore Clermont-Ferrand. Le président de la République Emmanuel Macron, lui, a promis des actes forts depuis Kwatzenheim dans le Bas-Rhin où un cimetière juif a été profané. Le chef de l'État sera présent ce soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est la dernière chance selon la CFDT qui reconnaît qu'elle est d'ailleurs assez mal partie. Les syndicats et le patronat se retrouvent aujourd'hui pour la dernière séance de négociation sur la réforme de l'assurance chômage. La question de la précarité et d'un éventuel bonus-malus chez les entreprises n'est pas encore tranchée. Si aucun accord n'est trouvé, le gouvernement a prévenu, il rédigera alors le projet de réforme tout seul. Cheveux blancs tenus par un catogan, lunettes noires. Son visage est à la une ce matin des principaux journaux. Le créateur Karl Lagerfeld est mort hier à l'âge de 85 ans. Nous reviendrons sur ce personnage énigmatique dans le journal de 6h30. À l'étranger, l'armée vénézuélienne répond aux menaces de Donald Trump. Elle assure son soutien sans faille au président Nicolas Maduro. Les militaires se disent déterminés à défendre l'intégralité du territoire et son intégrité, à empêcher également l'aide humanitaire d'entrer au Venezuela. Avant-hier, le président américain Donald Trump les avait mis en garde, leur refusant toute aide, et ce, s'ils refusaient de se rallier à l'opposant Juan Guaido.
Ce soir sur France Inter, c'est rien de pire. Chili Gonzalez, Bertrand Belin et Angèle sur un coup de tête. En concert privé. Une soirée exceptionnelle à vivre en direct sur France Inter ce soir à partir de 20h. France Inter, une radio de Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem est à vos côtés pour une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Parmi les nouveaux films qui sortent ce mercredi au cinéma, un documentaire a retenu notre attention, La Liberté de Guillaume Massard. C'est un film qui se déroule en prison, un film en immersion en prison, une prison située en Corse, mais avec cette particularité, c'est que c'est une prison à ciel ouvert. Alors, est-ce qu'un décor de carte postale à la place des barreaux peut mieux aider les détenus à se préparer à la réinsertion à la fin de leur peine? Guillaume Massard est notre invité ce matin pour répondre à la question.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Guillaume Massard.
Bonjour Toufik.
Elle est où cette prison? Elle est située où? Parce que je dois vous avouer, comme ça en préambule, que je n'étais même pas au courant de l'existence d'une prison à ciel ouvert quelque part en France, même si elle est située en Corse.
Elle est en Corse en effet, à côté de la commune d'Aléria, c'est-à-dire dans la plaine orientale de Corse, disons à mi-chemin entre Ajaccio et Bastia.
Elle est unique en son genre en France?
Alors en France, oui. En France, elle est unique en son genre. Par contre, on en trouve d'autres, des prisons ouvertes en Europe, dans les pays nordiques notamment. Mais en France, c'est la seule. Elle est souvent citée en exemple d'ailleurs. Mais c'est la seule. On parle souvent de reproduire cette expérience, mais ça n'arrive pas parce qu'il faudrait trouver un territoire similaire. Là, c'est tout de même 1500 hectares en bord de mer, 4 km de plage. On trouve difficilement un territoire similaire dans d'autres régions de France où l'on pourrait construire une prison. C'est un peu compliqué.
Alors, elle existe depuis combien de temps, cette prison?
Alors, cette prison, elle existe depuis la Libération. Et à la Libération, les bâtiments de détention ont été construits. La construction des bâtiments de détention doit dater d'à peu près de 1948. Et depuis, Elle est ouverte et
ouverte.
Elle est ouverte, oui. C'est tout le paradoxe d'une prison qui serait ouverte. Et c'est même pour ça que j'y suis allée, parce que je trouvais que c'était paradoxal, que ça ne pouvait pas aller ensemble. C'était comme si on me disait qu'il y avait une utopie à aller voir en prison. Pour moi, ça n'allait pas. J'avais en tête les mots de Michel Foucault sur l'hétérotopie, et je voyais pas du tout comment cet endroit pouvait fonctionner. Donc je suis allée voir en me disant peut-être que j'étais comme vous, peut-être je ne connaissais pas cette prison et qu'il s'y passait peut-être quelque chose, comme par exemple pour les institutions psychiatriques, il peut se passer quelque chose à la Borde, quelque chose de différent, un autre projet de réinsertion, une autre pensée de la prison. Donc j'ai voulu aller voir et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement de cet endroit.
Combien les détenus dans cette prison à ciel ouvert?
Alors, il y a une capacité d'accueil de 196 détenus, et lorsque j'y ai tourné, ils étaient environ 135.
Donc, vous êtes resté une année d'ailleurs avec eux?
Oui, je suis resté une année en quatre sessions à chaque saison, puisque comme c'est à ciel ouvert et que les détenus travaillent dans les champs par exemple, je voulais voir l'évolution à l'année. D'ordinaire, dans une prison, on ne voit rien, il y a des murs, on ne voit pas l'horizon et on ne voit pas le temps passé, on ne voit pas l'environnement qui change et qui évolue. Là, dans cette prison, on ne peut que le voir, puisque c'est ouvert. C'est grand ouvert. Il y a bien sûr les murs des bâtiments, mais il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, il n'y a pas de limites autour du territoire. Je parlais de 1500 hectares de terre. Ce n'est délimité que parce qu'il délimite d'ordinaire l'échange, c'est-à-dire, par exemple, des fossés, la route, puisqu'il y a une nationale qui traverse cette prison.
Il y a des miradors quand même, pour sûr.
Pas de mirador exactement, non. En fait, il y a un poste de garde à l'entrée, avec, c'est assez comique, une barrière qui se lève et qui se baisse, mais il n'y a rien autour de cette barrière, on peut passer à gauche, on peut passer à droite, mais le territoire est ouvert, il est bordé par des bois, par des étangs, mais il n'y a pas de mur, en fait. Lorsque vous arrivez au milieu des bois, vous vous trouvez face à un panneau sur lequel il est écrit « fin de limite autorisée ». Et si vous excédez cette limite, eh bien, vous êtes hors de la prison. Mais c'est simplement, vous mettez le pas dans le reste du monde. Mais il n'y a rien virtuellement. Il n'y a pas de mur. Vous franchissez un mur invisible si vous dépassez ces panneaux.
Qui sont ces détenus, Guillaume Massard? Ce sont des détenus du droit commun corse ou pas forcément?
Alors, il n'y a pas de Corse à Casabianda du tout. Précisément parce que il n'y a pas ces limites et qu'il ne faudrait pas s'évader si facilement que ça. Si vous étiez corse, vous pourriez prendre le maquis assez simplement. Là, en l'occurrence, ce sont des détenus pour des peines très longues qui ont été, pour la plupart, disons à environ 80%, ils ont été condamnés pour ce qu'on appelle des crimes sexuels intrafamiliaux, c'est-à-dire un crime d'inceste, plus simplement. Et les 20% restants sont là pour ce qu'on appelle des crimes passionnels. Mais la majorité de ces détenus-là sont ces gens qui ont commis ce crime atroce, ce crime suprême, et ce sont ce qu'on considère être des détenus dociles, et c'est sans doute pour ça qu'on les met là. C'est des personnes qui ont une grosse culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont vécu la prison fermée et l'enfer de la prison fermée, puisqu'ils sont considérés comme la pire des espèces de détenus possibles. Ils sont frappés, violentés, insultés par les autres, et lorsqu'on leur dit qu'ils peuvent aller à Casabianda, on leur dit « vous avez une chance incroyable, souvenez-vous d'où vous venez, de ce qui se passe dans le milieu fermé, vous arrivez maintenant en milieu ouvert pour les 3 à 5 dernières années de votre peine, après quoi vous sortirez. Donc vous allez apprendre un métier, vous allez apprendre à recommencer à échanger avec les autres sans crainte, il va falloir vous préparer à redevenir libre. Donc le projet théoriquement est celui-ci. Ensuite c'est compliqué parce que je vous dis qu'il y a 135 détenus au moment où j'ai tourné, il y avait 2 psys au moment où j'ai tourné.
Pour 135 détenus.
Et des détenus qui ont commis quand même des crimes qui appellent un suivi psy.
Vous comptez parmi les psys, parce que vous intervenez dans ce film La Liberté qui sort aujourd'hui, Guillaume Massard, vous intervenez, et on voit bien que les détenus attendaient cet échange avec vous. Alors, je suppose que cet échange, vous l'avez pas obtenu tout de suite. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez séjourné au milieu des détenus?
Ça a pris beaucoup de temps. Je suis allée une première fois dans la prison sans caméra pour leur montrer des documentaires, pour leur dire voilà, moi je vais venir avec une caméra, mais je ne suis pas la télévision, je ne suis pas journaliste, je fais des documentaires dits de création. Donc j'ai voulu leur montrer un peu autre chose que ce qu'ils voient à la télévision. Et c'est ainsi que j'ai gagné leur confiance, en leur montrant qu'on pouvait faire du cinéma autrement, qu'on pouvait prendre du temps pour faire des films, qu'on pouvait écouter la parole sans la couper nécessairement au bout de deux phrases.
Parce que la plupart acceptent de témoigner à visage découvert.
Absolument, ce qui a été une immense surprise pour moi, je ne m'y attendais pas. Donc j'étais venue pour filmer cette prison dans son fonctionnement, je pensais plutôt travailler avec l'administration, avec les surveillants, avec les psys, et c'est tout l'inverse qui arrive dans le film. Ce sont les détenus qui sont venus à moi et qui m'ont dit « on peut discuter ». Et comme j'avais moi-même ma liberté de circulation dans cette prison, j'ai accepté de monter en cellule, par exemple, pour prendre un café. Et à force de circuler librement et de discuter simplement avec ces gens, ils ont fini par avoir envie de me parler à leur tour.
Guillaume Assar, décrivez-nous cette prison, décrivez-nous ce lieu.
D'accord. L'essentiel de la prison est en bord de mer. Quand je parle de 1500 hectares, finalement, il y a peu de détenus qui ont accès aux 1500 hectares. Ceux qui ont accès aux 1500 hectares sont ceux qui, le matin, montent dans le camion pour aller travailler dans les champs. Mais en vérité, la zone où la plupart des gens circulent, c'est une espèce de cercle de 2 kilomètres, 3 kilomètres, qui est une espèce de cour de promenade élargie. Donc, on part de 3 bâtiments de détention, qui ressemblent à des espèces de barres d'immeubles, si on veut, de barres de HLM, un peu vétustes. Et on peut donc faire un cercle...
Mais qui ne ressemble pas à des cellules.
Ça ressemble un peu à des cellules, dans le sens où c'est 9 mètres carrés tout de même. Ça ressemble, en fait, pas à des cellules de maison d'arrêt. Ça ressemble aux cellules d'un centre de détention. Et c'est un centre de détention. Et comme dans beaucoup de centres de détention, les détenus ont la clé autour du cou et peuvent aller et venir à leurs occupations en dehors de leurs heures de travail. Et le soir, on ferme les bâtiments. Sauf que là, la cour est plus grande, puisqu'on part de ces bâtiments de détention. On peut circuler par le bois, remonter le long de la plage et circuler par le bois, revenir, circuler à travers les ateliers de mécanique, puisqu'il y a des endroits où forcément on répare les machines qui travaillent au champ, et puis finir ce cercle en passant près du réfectoire, etc. Donc, le décrire, c'est assez surprenant. Ça ressemble... à une ferme, puisqu'il y a aussi des bâtiments avec des animaux. Et dans cette ferme, il y a 3 bâtiments de détention où on enferme certaines personnes le soir. Tandis que les surveillants, les psys, les médecins peuvent, eux, circuler et rentrer chez eux.
Alors, quand vous les filmez, quand vous parlez à ces détenus, Guillaume Massard, est-ce que vous êtes seul face à eux ou est-ce que, pour des raisons de sécurité, vous êtes avec un gardien ? Que sais-je ?
Je suis pas cornaqué par un gardien, c'était pour moi une obligation sans quoi on n'aurait jamais pu discuter. Et ça aurait été contradictoire par rapport à ce qu'est cette prison où effectivement on peut circuler. J'avais pas peur pour ma sécurité puisque, étant donné que c'est une prison ouverte, on peut me voir de partout, où que je sois. Je me trimballais avec une très grosse caméra sur l'épaule. Je voulais pas me trimballer avec une toute petite caméra et qu'on ne m'identifie pas pour que quiconque ne veuille pas être filmé puisse m'éviter facilement. Et je suis avec un ingénieur du son qui prend le son et un assistant. Et ces deux personnes sont avec moi en permanence et en même temps, quand on regarde le film, on a beaucoup l'impression qu'on est dans des face-à-face. C'est sans doute pour ça que vous me posez cette question. C'est que vous me demandiez si j'étais un psy. Je pense que certains détenus ont fini par trouver un intérêt dans nos conversations pour travailler sur eux-mêmes.
Le mot est juste. C'est bien une conversation, des conversations.
Ce sont des conversations.
Ce ne sont jamais des interviews, ce ne sont jamais des questions.
Exactement. On est sur le même plan. On se regarde les yeux dans les yeux, à la même hauteur. Je ne prétends pas savoir ce qu'ils vont me dire. Et eux sont très surpris que je sois prêt à les écouter. Parce que vu ce qu'ils ont fait, pour moi-même, c'était une surprise d'être capable de les écouter. Mais en fait, vous entrez dans cette prison chargé de vos préjugés. Vous dites, un tel que je croise dans la cour, il a violé ses enfants, est-ce possible ? Est-ce que je vais pouvoir affronter cette personne ? Et en fait, simplement, ce sont des êtres humains, c'est pas des chimères à trois têtes, et ils viennent vous parler, ils sont capables d'humour, ils sont capables d'empathie, ils sont capables d'un recul, d'une réflexion. Enfin, c'est des êtres humains. En fait, il n'y avait pas de raison que je rencontre des monstres ou des créatures. J'ai rencontré des êtres humains qui ont fauté gravement et qui, pour beaucoup, s'ils en sont là, à quelques années de leur sortie, en ayant choisi d'aller dans cette prison-là, c'est qu'ils ont commencé à réfléchir sur eux-mêmes, à faire tout ce travail. Et le problème, c'est que l'institution leur donne pas nécessairement la place pour ça. Cet endroit, Casabianda, n'est pas l'utopie qu'on peut supposer. C'est un lieu incroyable. Par rapport à toutes les autres prisons, c'est un lieu formidable où il y a un horizon, où la contrainte physique est bien moindre. Mais il n'y a pas de projet réel de réinsertion,
justement,
pas de projet psy.
On peut dire que c'est un décor de carte postale.
Oui.
Bon, alors est-ce qu'un décor de carte postale à la place des barreaux peut mieux aider les détenus à mieux s'insérer après ou à imaginer une autre vie après leur détention? Eh ben, c'est pas très évident. On écoute un extrait d'une des conversations que vous avez eues avec un détenu de cette prison.
T'es désabusé, Anthony.
Ah ouais, mais là, je commence à être blasé. Oui, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol parce que...
Mais tu sais, c'est pas un ras-le-bol... T'es pas en colère, quoi. Je te sens pas du tout avoir envie de...
Non, c'est blasé.
De taper dans les murs ou quoi.
C'est vraiment blasé. Dire, voilà, il me reste encore... au mieux. Vraiment, si tout se passe bien, 3 ans. Donc ça fait encore long, quoi. Non, il y en a marre que... C'est surtout de cette carte postale qu'il y a ici. C'est ça qui me gonfle. Parce que c'est vrai que les personnes extérieures, quand ils voient tout ça, ils se disent, putain, franchement, ils sont en prison, et vu le cadre qu'ils ont, mais ça doit être dégueulé, quoi. Mais en fait, vaut mieux encore avoir des barreaux et portes fermées que ici et avoir une pression énorme. Parce que on va dire en gros, une fois que t'as retourné la carte postale, tu te rends compte que t'as quitté un enfer pour en retrouver un autre, mais qui est pire. Parce que autant que ton ancien enfer, il était physique, tu le voyais. Il y avait tout. Donc, t'avais pas de surprise. Que ici, tout passe par la psychologie. Et c'est terrible.
Alors, c'est vraiment terrible ce que vous dit ce détenu, parce que à ce moment-là de votre film, La Liberté, Guillaume Bassard, on se dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ce dispositif de prison en plein air?
Est-ce que la prison sert vraiment à quelque chose? Toute prison sert à une chose, à retirer la personne du monde libre et sortie de là. À quoi ça sert? À qui ça sert? Est-ce que ça sert véritablement la victime? Est-ce que ça sert le coupable à reconnaître ses actes, à se réinsérer, à mener une nouvelle vie derrière? Ou est-ce que ça sert simplement à la société, à mettre les personnes à l'écart?
Moi, j'opterais pour la deuxième option, Guillaume Bassard. Vous êtes allé avec une idée fixe ou vous vous posiez les mêmes questions? À quoi ça peut servir? En quoi c'est différent?
Oui, c'est la question que je me posais. C'est en quoi c'est différent? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent? Moi, je pense que c'est moins pénible. Et c'est tout ce que je peux en retirer de cette prison. Cette prison est moins pénible qu'une autre prison parce que il n'y a pas la violence physique, parce que il n'y a pas l'absence d'horizon, parce qu'il n'y a pas les barreaux. Mais un des détenus dans le film me dit il y a la persistance rétinienne des barreaux. Parce qu'une prison est toujours une prison, une prison est une prison est une prison. Qu'est-ce qui change à cet endroit? Mais pas grand-chose finalement. Si vous ne voyez pas, si vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, si vous n'avez pas l'opportunité de réfléchir à ce qui s'est passé, C'est compliqué à définir. Il y a un livre de Nabokov qui s'appelle L'invitation au supplice. Et dans cette invitation au supplice, à un moment, il y a un long texte d'un surveillant remis à un détenu. C'est un texte très fleuri où on dit que le surveillant est aux ordres du détenu, qu'il est là pour lui mener la plus belle des vies et que s'il a besoin de quoi que ce soit, il faut pas qu'il hésite au dos du papier à lui faire ses remarques parce que il veut que lorsqu'on lui ôtera la tête, il soit dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, pour moi, c'est un peu ça, Casabianda, cette prison. C'est un endroit où on donne l'impression que tout va bien, où on embellit ce qu'est la détention, mais la détention reste la détention, c'est-à-dire quelque chose d'absolument inhumain, froid, qui ne prépare pas à grand-chose, qui vous... On parle beaucoup de réinsertion. Et finalement, la prison a pour premier effet de désinsérer.
Ah, ça aussi, ça revient souvent dans le témoignage des prisonniers que vous rencontrez là-bas, Guillaume Assard.
Oui, oui, à partir du moment où on vous désinsère, pourquoi serait-ce à vous de vous réinsérer? Et que signifie se réinsérer? Surtout quand on ne vous a pas proposé grand-chose. On vous a enlevé du monde, on vous a mis avec certains de vos semblables en considérant que, puisque vous avez fait le même crime, vous pouvez vous retrouver au même endroit. On n'a pas vraiment de projet à vous proposer. On vous dit, allez travailler au champ. On vous dit, faites ci, faites ça, emballez des trucs. C'est ce qui se passe en général dans les prisons fermées. On emballe des choses à la chaîne. Bon, bah là, vous allez travailler au champ. C'est pas forcément un métier qualifiant. C'est pas forcément ce que vous vouliez faire. C'est pas forcément ce que vous pourrez faire en sortant. Parce que finalement, dans votre CV, vous aurez un trou de 15 ans. Et par ailleurs, je suis pas certain que l'insertion dans la société actuelle ne doive passer que par le travail ou que par le logement. Les personnes qui ont commis ces crimes-là n'étaient pas des personnes désinsérées, n'étaient pas des personnes en rupture sociale. Ce crime concerne toutes les classes sociales. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup avaient déjà un métier. Beaucoup avaient même des métiers reconnus. Il y avait des instituteurs, il y avait de tout.
C'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez fait un casting pour montrer la diversité des détenus, la diversité sociale, générationnelle des détenus?
Non, j'ai pas fait de casting, c'est eux qui sont venus à moi, j'ai fait aucun casting. Non, c'est eux qui avaient besoin de parler, qui étaient là, le casting a été fait par l'incarcération, si vous voulez.
Pas au montage, par exemple?
Alors au montage, forcément, on fait des choix. J'ai rencontré plus de monde, j'ai filmé plus de monde que ce qu'on voit dans le film, nécessairement. Et il faut construire, il faut forcément élaguer sur un an de travail. On a tourné 150 heures et avec ma monteuse Alexandra Mello, on a passé beaucoup de temps. On était en résidence de montage à Périphérie, à Montreuil, et on a passé beaucoup de temps à réfléchir, à remodeler le film. La première version du film faisait 5h30 et forcément, il y avait plus de monde, il y avait plus de choses à voir. Mais 5h30, vous vous rendez compte, c'était pas possible. Donc on ne voulait pas non plus que la traversée de cette prison soit pénible pour le spectateur à son tour. On voulait que le spectateur puisse accéder à la fois à la présentation de cette prison qui est tellement incongrue qu'on passe un peu de temps.
Un paradoxe, on peut parler d'un paradoxe. Hein.
Et aussi que le spectateur puisse accéder aux personnes qu'on rencontrait. Il fallait pas qu'on soit tenu à distance par des obstacles trop importants et trop impossibles. Il fallait
d'où le tutoiement, parce que vous tutoyez les détenus, Guillaume Assard.
C'est vrai, ça peut dérouter. J'ai même passé Noël avec eux. On le voit dans le film, à un moment, je passe Noël avec eux, je partage la nourriture avec eux, et je tutoie les détenus qui ont décidé de me tutoyer. Je n'ai jamais par moi-même été tutoyé. Dans cette prison, on serre la main aux gens qu'on croise dans la cour. Tout le monde se serre la main, tout le monde se fait un signe de la tête. C'est sans doute pas très sincère, mais c'est comme ça. Puisque tout le monde peut voir tout le monde, il faut bien se reconnaître. Donc oui, il y a une manière de familiarité qui peut surprendre. On peut se demander si ça va jusqu'à la sympathie, ce qui est tout de même très très étrange et très gênant, étant donné les personnes que je rencontre.
Il y a une empathie, ça, vous pouvez pas le...
Il y a une empathie.
Oui, ça, vous l'assumez, bien sûr.
C'est impossible de faire autrement. Vous passez un an avec quelqu'un, vous passez du temps à discuter sincèrement avec cette personne, vous devenez quelqu'un en qui cette personne a confiance. Cette personne vous confie des tas de choses et vous lui répondez sur le même plan. C'est-à-dire que si cette personne face à vous vous dit quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ben vous prenez le temps de lui expliquer. Et ça, forcément, ça conduit à l'empathie. Mais la mienne, aussi bien que celle des détenus avec lesquels j'ai parlé, eux-mêmes étaient surpris que parfois je ne sois pas en accord et que je puisse le leur exprimer sans les rejeter, sans les pousser dans un coin, sans dire « salopard, t'as violé un môme ». Voilà, ce serait le grand cri du cœur, mais c'est pas possible. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour me battre avec les gens. Je suis venu pour comprendre ce qui se jouait là. Et ces gens ont été d'une générosité assez étonnante que je n'imaginais pas, jusqu'à me raconter pas les faits commis. Jamais dans le film on est dans quelque chose de graphique, dans l'horreur du fait commis. Jamais quiconque dans le film ne refait son procès. Mon film est extrêmement respectueux de ce qui est arrivé aux victimes de ces personnes.
Mais on devine très bien les crimes en question, entre guillemets. Mais pourquoi avoir appelé ce film La Liberté? Parce que très vite on se rend compte que ce décor de Club Med, ça reste une prison. Hein, et on le voit aussi à travers les visages des détenus que vous filmez, des visages très marqué, c'est très dur ce qu'ils vivent.
Oui, c'est très dur. J'ai appelé le film La Liberté parce que c'est tout ce paradoxe dont vous parlez très bien, vous aussi. C'est l'impression de liberté, c'est la question philosophique de la liberté, la question fondamentale de la liberté dont on discute avec les détenus, qui nous ramène à cette question de la réinsertion. Qu'est-ce que signifie redevenir libre? L'est-on jamais vraiment? Comment se définit la liberté? Elle se définit toujours par rapport aux autres, elle se définit par rapport à la société dans laquelle on est inclus. Donc, il m'a semblé qu'à la fois c'était un pied de nez d'appeler ce film La Liberté et d'aller tourner en prison. Et en même temps, ça m'a semblé très juste parce que nous sommes tous en train de discuter là-dedans, de philosopher autour du concept de liberté. Mais tout ça est, par exemple, résumé dans la première séquence du film. Nous sommes le soir, à côté des bâtiments de détention, la nuit en train de tomber, et il y a là un cochon sauvage qui est entré dans la prison.
La nature est là, ouais.
La nature est là. Et ce cochon sauvage, les détenus jouent avec lui. Le cochon s'en va lorsque les surveillants arrivent pour fermer les bâtiments de détention. Et on est dans cette impression de liberté, presque paradisiaque, bucolique, en plein été, comme ça, avec les cigales. Il y a un cochon sauvage, on a l'impression d'être n'importe où. Un lieu de vacances, peut-être.
Et c'est une prison.
Et soudain, ouais. un surveillant arrive, enferme tout le monde et ferme la porte à double tour. Et moi, je reste seule dans la cour. Je suis dans cette position étrange où je suis ni avec le surveillant qui s'en va avec sa petite voiture, ni avec les détenus qui sont dans les cellules. Je suis là dans la cour, je suis un cochon sauvage à mon tour.
Et tout ça sur un rythme très lent, hein, tout ce début, c'est-à-dire tout votre film, d'ailleurs, vous laissez le temps, parce qu'ils sont en prison, vous nous faites sentir aussi le temps passé avec eux. Pour La Liberté, donc, ce film, ce documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma, Guillaume Massard, vous avez dit aux détenus que vous n'étiez pas un documentariste classique. C'est quoi votre parcours alors?
Écoutez, je viens de province, je viens des Ardennes, dans un petit lycée, le lycée Vauban. Suite à quoi, j'ai fait une petite prépa de province aussi à Reims, une prépa lettres. J'ai fait un an. La deuxième année, je l'ai pas faite parce que j'avais pas le niveau. Et ensuite, j'ai fait la fac, vraiment la fac de cinéma. Donc en fait, j'ai pas fait de grande école. Simplement, à la fac, j'ai rencontré des gens de valeur, mes camarades, et avec lesquels on a décidé de créer une petite structure de production qui s'appelle Triptyque Film, avec laquelle, depuis 10 ans, je produis des documentaires, des films d'art, des films expérimentaux, qui sortent tous des canons, qui ont bien du mal à arriver jusqu'en télévision, mais qu'on voit en festival, qu'on peut voir en galerie. Et ce film-là, je l'ai autoproduit. C'est le premier long-métrage qu'on va sortir en salle, c'est une aventure de 10 ans.
Ça a été facile d'avoir l'autorisation de rester autant de temps avec les détenus dans cette prison en plein air, en Corse, Guillaume Massard, pour terminer cet entretien?
Non, c'est jamais facile, c'est pas facile de tourner en prison, mais le plus dur, curieusement, n'a pas été d'avoir l'autorisation de l'administration. Le plus dur a été de financer un film pareil. C'est difficile que quelqu'un vous fasse confiance quand vous êtes un jeune réalisateur, bien sûr, mais quand vous faites un documentaire sur la prison, c'est tout de même un sujet qui devrait être central, qui devrait tous nous concerner et qui
c'est un
fait
bon
peur.
Sujet de débat, mais on ne sait pas si c'est un bon sujet pour le cinéma.
Ça fait très peur, ouais. Absolument, ouais. Ça fait très peur. Et si vous ajoutez à ça l'inceste, alors là, les gens tournent carrément les talons et s'enfuient en courant. Alors même que nous sommes dans un sujet qui est encore plus central, qui nous concerne tous, la famille, la sexualité, c'est la base de notre société même, c'est notre fondement d'être humain. Et pourtant, c'est ce qui nous fait fuir le plus. Et c'était cette question du tabou qui est au cœur du film, et la question de mettre des mots sur le tabou qui est la quête du film. Et je suis heureux que le film se conclue sur cette possibilité de mettre des mots sur le tabou. Et c'est ce qu'on a réussi à accomplir au bout de 6 années de travail très difficile.
Et en plus des mots, des images sur cette prison vraiment très très particulière en Corse. Merci beaucoup d'être passé ce matin pour nous parler de votre film La Liberté qui sort aujourd'hui. Merci Guillaume Assar.
Merci à vous Toufik.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente Am Königsweg. Falk Richter met en scène l'œuvre d'Alfred de Jelinek, Nobel de littérature 2004. Née dans la nuit de l'élection de Trump, la pièce questionne la naissance de l'autoritarisme. Pourquoi n'avons-nous rien vu venir ? Cette pièce politique et d'autodérision est accompagnée par une mise en scène baroque et provocatrice. Am Königsweg, du 20 au 24 février, à l'Odéon Théâtre de l'Europe, à Paris. Un partenariat France Culture. Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans 3 institutions, 3 services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La maison Chanel perd le dernier de ses géants et son icône pop planétaire. Le créateur de mode Karl Lagerfeld est mort hier à 85 ans. Cheveux blancs et lunettes noires ont rendu le personnage emblématique. Nous vous expliquerons quel mystère il entretenait. Reportage ensuite dans les rues de Toulouse où près de 2000 personnes se sont rassemblées hier contre l'antisémitisme. Des manifestants vêtus d'un gilet jaune étaient présents. Et puis, quelle coopération européenne en matière judiciaire autour des grands scandales financiers. Le Football Leaks fait avancer les choses, vous le comprendrez. Il était une icône mondiale de la mode, emblématique, directeur artistique de Chanel pendant 35 ans. Karl Lagerfeld est donc décédé à l'âge de 85 ans hier après une longévité exceptionnelle dans ce métier. Grâce à lui, Chanel s'est hissé sur le podium des plus grandes marques de luxe mondial. Et pourtant, Karl Lagerfeld a su rester un personnage très énigmatique. C'est ce que rappelle Raphaël Baquet, journaliste au Monde, auteur d'une série de reportages sur Karl Lagerfeld publiée cet été. Elle répond au téléphone de Fiona Mogadam.
Dès son arrivée à Paris, à peine à l'âge de 20 ans, Karl Lagerfeld s'était attaché à se construire une légende et à même reconstruire son passé et à construire de toutes pièces sa vie. Quand j'ai enquêté, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il avait menti sans cesse sur ce qu'il était, sur ses parents. Et vraiment, c'était une volonté d'être maître de sa vie. Parce qu'évidemment, je pense qu'il faut revoir un peu le Rosebud de Karl Lagerfeld tenait évidemment à cette enfance dans une Allemagne en guerre. Hein. Il était né en 1933, donc au moment de l'avènement d'Hitler, à Hambourg, et il avait vécu vraiment cette guerre effroyable. Hein. Dès l'âge de 15 ans, si vous voulez, il n'a qu'une idée, c'est de fuir ce pays. Et c'est à partir de là, je pense qu'on ne peut pas comprendre Karl Lagerfeld si on ne comprend pas sa volonté d'effacer ce passé, ou en tout cas de ne plus appartenir à ses racines. Même si, par ailleurs, il est toujours resté très allemand, hein, avec une culture et une érudition sur son pays d'origine, et sur la littérature allemande, sa géographie, son histoire, une érudition très fine, mais il voulait vraiment se construire une nouvelle vie et un nouveau passé.
Karl Lagerfeld avait 85 ans. C'est Virginie Viard, actuelle numéro 2 de la direction artistique de Chanel, qui va lui succéder. Hommage sur France Culture à 8h35 tout à l'heure avec Guillaume Erner et son invité, la journaliste Françoise-Marie Santucci. Ils étaient plusieurs milliers hier, au moins 20 000 à Paris, place de la République, selon les organisateurs de ce rassemblement contre l'antisémitisme. Une façon de protester contre la multiplication des actes antisémites en France ces dernières semaines. Profanation de tombes, à Quatzenheim en Alsace. Portrait de Simone Veil recouvert de croix gammée à Paris. Insulte aussi envers le philosophe Alain Finkielkraut. Une foule s'est donc massée à Paris hier avec de nombreuses personnalités politiques, mais un peu partout en France également, des rassemblements ont eu lieu. Ça a été le cas à Toulouse. 2000 personnes s'y sont réunies autour du mémorial de la Shoah. Alain Gastal y était.
Pas de discours, pas de banderole, très peu de personnalités. C'était un vrai rassemblement de citoyens venus de partout pour dire leur rejet de l'antisémitisme. Un moment qui va compter pour l'ancienne députée de Toulouse, Yvette Benayoun-Nakache.
Tous les relents antisémites, racistes, homophobes me remuent beaucoup et me font peur. À mon âge, je ne pensais pas revivre ça, ce que me disaient mes parents et mon oncle Alfred aussi qui a été déporté. Donc la femme et la fille, ils ont été gazés dans les camps. C'est vrai que c'est un retour en arrière qui fait peur, mais on va se ressaisir. La France a des valeurs et a des ressources, donc on va tous se ressaisir.
Ils sont arrivés presque timidement. Quelques gilets jaunes se sont joints au rassemblement. Problème à Toulouse aussi, le cortège de samedi dernier a laissé derrière lui quelques tags antisémites.
Vous marchez avec eux en bonne conscience, à côté de...
À côté des racistes des...
Oui, en bonne conscience.
Mais qui ont tué pas... trois enfants magnifiques dans cette ville.
Ça porte tort aux bonnes choses.
Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Justement, organisez-vous.
Mais on n'est pas la police pour les sortir. C'est à la police de faire ce travail.
C'est votre manifestation.
Une petite délégation de gilets jaunes a tout de même pu participer au rassemblement sans aucun incident.
On prendra des actes, on prendra des lois, on punira. Voilà ce qu'a dit hier Emmanuel Macron, le président de la République, était au cimetière juif de Quatzenheim dans le Bas-Rhin. Il a été profané la nuit précédente. Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire hier soir à la prison de la Santé à Paris, et ce après le non-respect de son contrôle judiciaire. Même chose pour l'ancien salarié de La République En Marche, Vincent Crase. Les juges chargés d'enquêter sur les violences du 1er mai dernier reprochent aux deux hommes d'avoir communiqué ensemble alors que cela leur était interdit. Aujourd'hui, par ailleurs, les sénateurs de la commission d'enquête doivent remettre leur rapport sur cette affaire, dite Benalla. Dernière séance ce mercredi, syndicats et patronats ont rendez-vous au siège du MEDEF pour négocier autour de l'assurance chômage que le gouvernement souhaite réformer. Au cœur des désaccords, il y a toujours la manière d'agir sur le recours aux contrats courts. Les syndicats veulent obliger les entreprises qui en abusent à cotiser plus à l'assurance chômage, un bonus-malus donc. Le patronat, lui, pour faciliter l'accès durable à l'emploi, propose d'agir sur les différents contrats qui existent déjà, Catherine Pétillon.
Pour les entreprises, les possibilités d'embauche via des contrats courts sont déjà nombreuses. Le CDD de remplacement, renouvelable deux fois pour 18 mois maximum, doit répondre à des besoins précis comme le surcroît d'activité. Le patronat propose d'instaurer la possibilité de conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents. Une manière, dit-il, d'allonger la durée de l'emploi. D'autres y voient une façon d'instituer la précarité en ne limitant non pas les missions, mais le nombre de signatures de contrats. Le CDD dit d'usage ou CDDU est une forme de contrat très flexible, souvent utilisé dans l'hôtellerie-restauration, l'audiovisuel ou encore l'événementiel. Il peut être renouvelé sans limite et n'ouvre pas droit à des indemnités de fin de contrat. Le patronat propose de clarifier les cas de recours au CDDU et d'y adjoindre le droit à une prime de précarité, sans préciser au bout de combien de contrats elle serait proposée, ni pour quel montant. Enfin, il préconise le développement du CDI intérimaire.
La Cour d'appel de Paris va se pencher aujourd'hui sur une affaire de contrefaçon d'œuvres d'art. Il s'agit de sculptures d'Auguste Rodin. Parmi les quatre prévenus, Gary Snell, gérant de la société américaine Grupo Mondial, elle est accusée d'avoir vendu ou exposé une quantité d'œuvres du sculpteur Florence Turm.
Le baiser, le penseur ou encore la main de Dieu, selon l'estimation d'un expert judiciaire, la société Grupo Mondial aurait produit pas moins de 1700 bronzes tirés d'une cinquantaine d'œuvres majeures de Rodin. Avec cette particularité, les tirages ont été réalisés à partir d'authentiques plâtres d'atelier, eux-mêmes vendus par la fondation historique du sculpteur, la maison parisienne Rudier. Les œuvres vont ensuite se retrouver dans plusieurs expositions internationales, Venise, Toronto, Genève, mais sans la mention reproduction, dénonce le musée Rodin, qui porte plainte en mars 2001 pour escroquerie et contrefaçon. Certes, l'œuvre du sculpteur est tombée depuis longtemps dans le domaine public, mais c'est le musée qui en détient seul les droits moraux. Il estime son préjudice à plus de 60 millions d'euros, d'autant que la quantité de nouveaux bronzes fondus à partir de surmoulage aurait également dénaturé la qualité des œuvres. La défense de Gary Snell affirme pour sa part que le musée était au courant de son projet. Alors, simple tirage posthume ou contrefaçon, ce sera tout l'enjeu de ce procès, maintes fois reporté en raison notamment d'un AVC du principal prévenu, âgé de 70 ans. La société Grupo Mondial, elle, a été liquidée.
Le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sortira bien aujourd'hui. La justice a débouté hier une ancienne membre du diocèse de Lyon qui demandait que son nom ne soit pas mentionné dans ce long métrage. Ce film se penche sur l'affaire de pédophilie dans l'église lyonnaise et les victimes du père Prénat mises en examen dans cette affaire. Le partage des données au niveau européen a fait un pas en avant hier. 9 pays, dont le Portugal, le Royaume-Uni, la Belgique ou l'Espagne, ont répondu favorablement à une proposition de la justice française. Elle souhaite en fait partager des informations sur les révélations des Football Leaks, Pierre Benazet.
Suite à la révélation de son rôle à l'origine des Football Leaks, le lanceur d'alerte portugais Rui Pinto a témoigné devant les magistrats français du parquet national financier. Il leur a fourni 3 supports numériques depuis la fin de l'automne. La justice française possède donc désormais 12 millions de fichiers, d'après une expertise technique qui vient de se terminer. Elle est la seule à disposer de documents étayant les accusations des Football Leaks et elle réalise qu'elle dispose d'une mine d'or dont il faut faire profiter les autres justices européennes. Éric Largouillou, procureur adjoint au parquet national financier.
Une première analyse à partir de mots-clés a permis de confirmer que les données sont susceptibles de constituer des éléments de preuve dans le cadre de l'enquête française, c'est-à-dire qu'en réalité, on a testé un certain nombre de mots-clés apparus dans notre procédure et nous avons eu plusieurs résultats positifs sur la base de données. Mais il est apparu également que ces données pouvaient intéresser de manière plus large d'autres autorités judiciaires pour des enquêtes éventuellement déjà ouvertes ou des enquêtes qui pourraient l'être sur la base de ces éléments.
La proposition de la justice française de mettre les fichiers à disposition des pays voisins a rencontré un franc succès puisque pour le lancement à l'aide de cette coopération judiciaire, 9 pays étaient présents hier dans les locaux d'Eurojust. Le parquet national financier désire garder le contact avec le lanceur d'alerte portugais et celui-ci a peut-être d'autres documents à fournir. Mais la poursuite de l'analyse des millions de documents déjà en possession de la justice française pourrait bien attirer d'autres pays encore dans cette coopération judiciaire.
Un autre exemple de la coopération européenne, les règles de la concurrence. Après le refus de l'Union européenne de créer un géant du ferroviaire en fusionnant Alstom et Siemens, eh bien la France et l'Allemagne prennent les devants et créent de nouveaux champions de l'industrie en Europe grâce à un mémorandum déposé hier. Il veut faire face à une concurrence internationale de plus en plus forte, notamment en Chine. Le temps de ce mercredi, il sera calme, nuageux au nord, ensoleillé au sud, avec des températures de saison, 5 degrés ce matin à Lille et Paris, 6 degrés à Lyon, 10 près de la Méditerranée. Il est 6h40 et nous retrouvons Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
L'art de l'éloquence est à la une de votre journal des idées ce matin. La mise en œuvre du grand débat national témoigne en effet d'une érosion de la parole publique.
Oui, nous sommes entrés dans l'ère du clash, estime Christian Salmon dans un livre publié chez Fayard sous ce titre. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, la rhétorique populiste, le harcèlement numérique illustrent une brutalisation des échanges qui peut ajuster titre, susciter la nostalgie de formes plus polissées du débat citoyen. C'est l'objet du dossier proposé par le mensuel Sciences Humaines, l'art de parler. Entre vérité et persuasion, l'éloquence a bien des ambiguïtés, mais elle a aussi des vertus civiques, ce que le philosophe Habermas désignait comme l'éthique de la discussion. Nicolas Rousselier en retrace l'histoire entre grandeur et décadence. La parole politique ne peut avoir le même statut qu'une démonstration de géométrie. Elle n'a pas le même régime de vérité. Elle n'en a pas moins l'obligation de construire un sens qui, au-delà de sa fragilité, doit pouvoir créer un lien social et politique, faire exister le bien commun. L'auteur du Parlement de l'éloquence rappelle que la controverse avec les sophistes, maîtres de l'art oratoire, a été le geste fondateur de la philosophie en Grèce ancienne, mais c'est bien le caractère performatif du discours politique qui, à la Révolution, a fait advenir, la présence réelle de la nation ou de la volonté générale. Par la suite, l'éloquence parlementaire jouira d'un grand prestige, au point d'être considérée comme un genre littéraire. 11 volumes pour les discours de Gambetta. Au début du XXe siècle, cependant, on commence à parler de la République des avocats dans un sens plutôt péjoratif. L'anti-parlementarisme se nourrit de l'impuissance des beaux discours face au désordre financier. Puis vient le général de Gaulle et l'âge des médias audiovisuels. Alors même qu'il se trouve relativement isolé à Londres, le micro de la BBC permet littéralement d'inventer la France libre. Rarement l'éloquence n'a été aussi performative. Là, cependant, le style est plus sobre et pragmatique. La seule envolée lyrique est celle du discours à l'Hôtel de Ville lors de la libération de Paris. Pour le reste, son éloquence conserve la sobriété des harangues militaires. Elle s'oppose très nettement à l'éloquence parlementaire de la Troisième République. Aujourd'hui, un grand oral est prévu dans la réforme du baccalauréat. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire, regrettait déjà l'absence de l'enseignement du discours. L'écolier apprend à lire, à écrire, à compter, à raisonner, non à parler. Or, c'est en parlant que bien souvent il devra exercer sa profession. C'est en parlant qu'il lui faudra défendre ses intérêts, soutenir sa pensée, convaincre ses interlocuteurs. Il faut non seulement convaincre, mais aussi toucher, disait Voltaire. C'est là toute la subtilité de l'art oratoire. Les éditions Rivage Poche publient la semaine prochaine un grand classique de la pensée chinoise, 4e siècle avant notre ère, l'art de la persuasion, qui est à la diplomatie l'équivalent de l'art de la guerre de Sun Tse. Tout comme ce dernier met l'accent sur l'effet de surprise, Guy Coutse cultive les ambiguïtés de la pratique de la négociation entre opportunisme et dissimulation. 3 chapitres sont à cet égard puissamment suggestifs, sonder, effleurer et peser. Le premier indique les moyens d'obtenir du prince des informations objectives pour évaluer les pouvoirs, mais aussi acquérir des éléments subjectifs d'appréciation en sondant les sentiments. Cela constitue le fondement de tout plan stratégique qui guide le discours de persuasion, résument les traducteurs Chen Lichuan et Michel Mollard. Effleurer est justement le principe de cette approche des sentiments intimes, toucher de l'extérieur afin que les signes intérieurs répondent. Il faut pour cela dissimuler ses propres sentiments et se retirer discrètement une fois l'objectif atteint. L'échange requiert une sympathie réciproque, utile dès lors qu'on souhaite par la suite être écouté en matière de conseils. Et si elle n'est pas au rendez-vous, la sympathie effleurée peut s'entendre aussi à travers les désirs. Y aura-t-il alors certains pour ne pas écouter ? Peser est ensuite un jeu d'enfant, il suffit suivant les cas d'habiller ses paroles, de la flatterie aux propos posés pour inspirer confiance, voire être direct ou contre-attaqué quand on perçoit les insuffisances de l'interlocuteur. Une philosophie qui avance donc à découvert, persuader l'autre, c'est l'exploiter. On peut dès lors préférer le silence dans les relations interpersonnelles. Peggy a une belle formule à ce sujet. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. Et dans Le Côté de Guermantes, Proust évoque la surface de silence étendue sur notre sommeil, avant de faire un éloge paradoxal de la surdité qui déploie un monde presque édénique où le son n'a pas encore été créé. Les plus hautes cascades déroulent pour les yeux seuls leur nappe de cristal, plus calme que la mer immobile. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, Union Européenne, USA, quelle autonomie stratégique ?
Eh oui, on va faire un petit détour. La France et l'Allemagne en quête d'autonomie stratégique. Ça, c'était les mots de Bruno Le Maire hier au sujet de l'Airbus de la batterie. Alliance industrielle, mais qui pourrait être amenée à être déclinée en alliance diplomatique et militaire 2 jours après le forum sur la sécurité de Munich, sous forte pression américaine. On voit ça avec vous, Pascal Boniface. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes le directeur de l'IRIS et auteur de Requiem pour le monde occidental, publié il y a un mois chez Erol. Ce monde occidental qui s'interrogeait donc à Munich à la fin de la semaine dernière. L'alliance transatlantique peut-elle durer? L'UE est-elle prête à sa défense? C'était deux questions posées qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et pour cause, peut-être d'abord un forum où les dirigeants européens étaient assez singulièrement absents, mis à part Angela Merkel. C'est assez étonnant cette configuration, non?
Oui, effectivement. Alors on peut dire que Mme Theresa May était prise par le Brexit et Emmanuel Macron par les Gilets jaunes. Et que donc ces deux grands dirigeants habituellement présents à ce sommet n'étaient pas là pour des raisons de politique intérieure. Par contre, Mme Merkel, qui, elle, jouait à domicile, était là et elle a tenu un discours qui était très fort et qui était vraiment très opposé à celui qu'avait fait Mike Pence la veille, le vice-président américain. Et jamais, peut-être, une chancelière allemande n'avait eu un discours aussi fort et aussi opposé aux thèses du président et de l'administration américaine.
Oui, je crois qu'il y a même une rencontre entre Mike Pence et Angela Merkel, où Pence disait « l'Amérique est plus forte qu'avant, l'Amérique est à nouveau en position de leader sur la scène mondiale », alors qu'Angela Merkel, elle, disait « il y a un risque de perte de la coopération multilatérale, je la cite, nous ne pouvons pas juste la briser en mille morceaux ». C'était aussi cette ambiance, on pourrait dire, d'abord de deuil du multilatéralisme, ce forum.
Oui, effectivement. Alors disons que les États-Unis ont toujours eu une politique plus unilatérale que les Européens. Pour les Européens, le multilatéralisme fait partie de leur ADN stratégique. Mais on peut dire que jamais une administration avait poussé l'unilatéralisme à un tel degré. Et effectivement, sur cette notion quand même très forte, ce concept très fort, il y a un divorce profond. Mike Pence peut dire que l'Amérique est plus forte, mais elle est plus forte seule. Elle est plus forte sans les autres, voire souvent contre les autres, alors que les Européens, et Mme Merkel en tête, plaident, ainsi que le président Macron d'ailleurs, pour un multilatéralisme fort, multilatéralisme qui, il faut bien le reconnaître, est profondément en crise.
Et cela alors même, et c'est ce que vous expliquez tout au long de votre livre, que ce qui est en jeu en grande partie, c'est aussi l'avenir de l'Alliance Atlantique, l'OTAN justement. En quelques mots, ou pendant ces quelques jours, comment est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'écart ou le fossé? Je crois que c'était Aikomas qui disait en juillet ou en août dernier que l'Atlantique s'est élargi. Il s'est encore élargi pendant ce sommet?
Oui, il s'est encore élargi, effectivement, du fait des positions radicalement opposées et des tentatives du vice-président d'imposer les volontés américaines, notamment sur l'Iran, le fait de reprocher très vertement aux Européens de vouloir continuer à maintenir l'accord alors que ce sont les États-Unis qui s'en sont retirés. Donc effectivement, là, il y a un fossé très grand. Donald Trump avait menacé de quitter l'OTAN, il ne le fera pas, c'est trop dans l'intérêt des États-Unis, mais sa conception de l'OTAN n'est pas une conception entre pays alliés, c'est une conception où un pays décide de tout, les États-Unis, et les autres doivent obéir. Il y a plus, en fait, des vassaux que des alliés, et bien sûr, pour des pays comme la France, l'Allemagne, mais y compris le Royaume-Uni, et ça c'est extrêmement important, y compris le Royaume-Uni a refusé de suivre les États-Unis sur l'affaire iranienne, tant pour l'arrêt de l'accord sur le nucléaire que le fait de devoir arrêter sur injonction américaine d'avoir des relations commerciales ou politiques avec l'Iran.
Oui, des vassaux et des junkies stratégiques, hein, c'est votre expression dans le livre. Justement, est-ce qu'il y a vraiment un risque de remise en cause de cette alliance stratégique otanesque, sachant que on a plutôt l'impression qu'elle se renforce du côté américain, notamment du côté de la défense des missiles, on en a parlé récemment?
Oui, effectivement. Alors, et aussi, il y a un divorce entre les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis, mais il y a un autre divorce qui est entre les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, puisque les nouveaux venus à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne sont, eux, très fortement pro-américains. Les Polonais ont même proposé de verser 2 milliards d'euros aux États-Unis pour qu'ils construisent une base militaire qu'ils baptiseraient Fort Trump sur leur territoire. Et donc là, il y a ce double divorce entre les anciens pays de l'OTAN européen et les États-Unis, mais entre ces pays d'Europe de l'Ouest et les pays d'Europe de l'Est.
Oui, et avec en toile de fond, ou encore plus à l'Est, cette relation à la Russie qui est, on pourrait dire, prisonnière d'une sorte de double préjugé assez tenace, très favorable à l'égard de ce que vous appeliez le monde occidental, et plutôt défavorable par rapport à la Russie, à qui on attribue à la fois un pouvoir de nuisance et puis une faiblesse quasi endémique depuis 1990. Ce sont deux erreurs, ces jugements, disons.
Oui, effectivement, il y a deux visions contradictoires mais qui s'appliquent en même temps, de penser que la Russie ayant perdu la guerre froide, elle n'a plus son mot à dire et qu'on peut lui imposer ses volontés, qu'elle n'a qu'à obéir aux États-Unis, aux Occidentaux, et en même temps de la présenter comme une menace existentielle pour notre sécurité, une menace qui serait aussi forte que ne l'était à son époque la menace soviétique. Qu'il y ait un défi stratégique russe est une évidence, effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur certains points, et les relations sont crispées, mais en termes de menace militaire, elle est très largement exagérée par l'OTAN, notamment pour justifier d'ailleurs le maintien de l'OTAN et l'augmentation des dépenses militaires européennes, qui au final, finalement, serviront à aller venir acheter les équipements militaires aux États-Unis.
Oui, des dépenses qui doivent atteindre 2% du budget d'ici 2024. Il y a des pressions américaines très importantes de ce point de vue-là. Donc pas de risque d'explosion de l'Alliance. Au contraire, peut-être un renforcement, dernière chose sur l'OTAN, avec cette initiative qu'on appelle 4x30, 30 bataillons, 30 escadrilles, je crois 30 navires déployables en 30 jours. Là encore, c'est quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de l'autonomie stratégique alors.
Non, mais le fait que les Européens renforcent leur capacité stratégique, c'est une bonne chose, à condition qu'ils aient un projet autonome. Il ne s'agit pas d'ailleurs de s'opposer en tant que tel aux États-Unis, mais d'être capable d'agir sans eux en cas de désaccord grave. Si quelque chose se produisait de grave dans les Balkans, il n'est pas certain que les États-Unis interviendraient. Et donc, il serait nécessaire que nous soyons prêts. Et lorsqu'il a fallu intervenir en 2013 au Mali, eh bien, il était heureux que la France ait des capacités d'action autonome pour agir dans l'urgence par rapport à un défi majeur.
Alors ça, c'était pour le Sahel, effectivement. Tout récemment, il y a eu une prise de position attendue de la part des Européens. C'est ce mécanisme INSTEX qui doit permettre de faire du troc dans certains domaines avec l'Iran, du troc en euros. C'est pas suffisant, a dit Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères. Et il a ajouté, l'Europe doit se mouiller si elle entend nager contre les dangereux courants de l'unilatéralisme américain. Ce mécanisme, il est réellement opérationnel ou il est, déclaratoire.
Il est les deux, c'est-à-dire qu'il est opérationnel et c'est un signal politique très fort envoyé aux États-Unis en disant que on ne cédera pas à votre chantage. Et le fait que non seulement la France, mais également l'Allemagne et plus encore le Royaume-Uni y participent est effectivement un signal politique très fort. Mais d'un autre côté, on voit que les grandes compagnies nationales et européennes, Air France, Total, Peugeot, ont quitté l'Iran. Donc cela permettra de continuer à commercer pour des PME, pour des entreprises. Les très grandes entreprises, elles, ont préféré arbitrer en faveur du marché américain plutôt que du marché iranien. Mais ce qui est important avec ce dispositif, c'est le signal stratégique. C'est donc un début d'autonomie et de montrer que les Européens ont leur propre agenda et n'ont pas à suivre de façon passive l'agenda américain.
Et alors concernant les autres leviers d'autonomisation stratégique, là j'évoquais ce rapprochement économique sur l'Airbus de la batterie, mais il y a aussi des projets industriels militaires avec récemment le lancement du SCAF, cet avion commun entre Paris et Berlin. C'est une vraie pierre également ou quelque chose qui a amené à ne pas avoir d'horizon? On parle de 2030-40 quand même pour cet avion.
Oui, mais c'est essentiel, c'est de savoir est-ce qu'il y aura encore un avion de combat européen ou est-ce que l'on sera tous forcés d'acheter des avions américains. Le but de l'industrie de défense américaine est de tuer l'industrie de défense européenne, et là-dessus, les industriels allemands en sont très conscients, et donc ils travaillent étroitement avec les Français. Il faut éviter l'erreur qui a été faite dans les années 80 d'avoir deux avions de combat, l'un français, l'un allemand. On ne survivrait pas à une telle division, et si on veut peser par rapport aux Américains, il faut également unir nos forces. Là, on peut regretter, par exemple, que récemment, les Belges aient choisi le F-35, l'appareil américain. Il faut vraiment, il est vital pour nous que nous ayons des équipements militaires européens et ne soyons pas dépendants des États-Unis pour ce domaine.
Oui, oui, sachant qu'il existe déjà un certain nombre de matériels en commun quand même. Toute dernière chose, qui est-ce qui fait le plus pression aujourd'hui pour ce matériel? Est-ce que c'est pas les industriels paradoxalement? Il y avait le président exécutif d'Airbus qui disait « Cela nous rend fous depuis des années à Airbus que la partie allemande se donne le droit de bloquer la vente d'un hélicoptère parce qu'il y a des pièces allemandes dedans. » Est-ce qu'on sent pas une certaine tension de ce point de vue-là?
Oui, effectivement, par rapport à l'exportation, et là, il s'agissait de l'exportation en destination de l'Arabie Saoudite, qui pose un problème. Les Allemands, notamment, depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi, s'opposent à cela. Mais effectivement, il faudrait que chaque pays soit libre de vendre le matériel à qui il veut bien, et qu'on ne puisse pas se bloquer mutuellement. Le débat sur les relations avec l'Arabie Saoudite est autre chose, mais on sait très bien que l'industrie européenne a besoin d'exportation pour vivre parce que le marché national ou européen n'est pas suffisant en termes de taille.
Bon, mais à voir les prochains développements diplomatiques de cette autonomisation, Conseil de sécurité européen ou parapluie nucléaire français, peut-être des rêves pour l'instant. Mais merci pour vos explications aujourd'hui, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Et on renverra à votre livre, évidemment, Requiem pour le monde occidental, relever le défi Trump, c'était chez Erol.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.
France Culture présente le cycle Sacha Guitry. Du roman d'un tricheur à Assassin et voleur, en passant par Quadrille ou La Poison, la Cinémathèque de Toulouse présente 23 films de cet auteur et acteur de génie. Travailleur infatigable et dialoguiste hors pair, Guitry s'amuse avec le cinéma.
Allô ?
Allô ?
C'est pas Paulette ?
Non, c'est Claudine.
Mais où est Paulette ?
Elle a été entraînée par toute une bande de cinéastes américains qui l'ont emmenée souper.
Admirée de François Truffaut et d'Orson Welles, son œuvre paraît encore plus jeune, 60 ans après sa mort, qu'elle ne l'était de son vivant. Sacha Guitry, jusqu'au 20 mars à la Cinémathèque de Toulouse. Un partenariat France Culture.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins et nous retrouvons Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Et Karl Lagerfeld est mort alors que son vestiaire triomphait.
Le noir, le slim dont il avait fait sa silhouette, mais aussi, ne l'oublions pas, le gilet jaune. Et oui, il avait assuré la promotion du gilet jaune, vous vous souvenez, c'est laid, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie, disait-il. Un gilet jaune, aujourd'hui, signe de distinction sociale, le bas versus le haut, rappelant que toute mode relève de la stratégie de distinction. Pourtant, Lagerfeld n'était pas un dominant comme les autres. Alors bien sûr, il était le descendant d'une famille très riche. Il amassa une fortune considérable. Il ne savait pas exactement combien il avait de maisons. Il voisinait surtout avec le haut du panier, voire le haut du haut. Maniait un art de la provocation qui l'a protégé sa vie durant de toute action humanitaire, à la différence des autres couturiers qui ont généralement tous leur bonne cause. Mais pour le reste, Karl Lagerfeld était essentiellement indifférent, un inclassable. Tout dans la trajectoire de Lagerfeld était différent. Alors il y avait son homosexualité parfaitement assumée à une époque où celle-ci n'était pas encore acceptée, tandis que nombre de couturiers qui étaient ses contemporains l'ont vécu de manière douloureuse. Pour lui, elle allait de soi, ne méritant même pas que l'on s'y arrête. Son existence tout entière était placée sous le signe de la différence, introduisant le mauvais goût dans le bon, parce que c'était ça, le bon goût pour lui, l'Allemagne dans la France, refusant strictement tout lieu commun au point de lâcher à intervalles réguliers des énormités. Eh bien, c'est cette différence-là qui lui a permis non pas d'être à la mode, mais de mourir à la mode. Il aurait vécu 120 ans, il aurait été à la mode jusqu'à 120 ans. Et c'est cela aussi sa singularité, car d'ordinaire, si l'on en croit Cocteau, la mode meurt jeune. C'est même à cela qu'on la reconnaît. Sa différence, il l'a cultivée parce que c'est cela l'essence de la mode, proposer à chacun une manière de se distinguer, une manière de se distinguer qui parle au plus grand nombre. Comme le pensait le sociologue Georg Simmel, la mode vient souvent de l'étranger. Elle est fréquemment importée d'ailleurs. Les différents, les monstres sociaux ont d'autant plus de facilité à inventer la mode qu'ils ne partagent pas les appartenances moyennes d'une société. Et c'est pour cela qu'au final, la mode appartient à tous.